Bonjour. Aujourd'hui, poursuite du salon du livre à Beaupuis, près de Marmande, qui a eu lieu le mois dernier. Nous entendons d'abord Sébastien Chevret, illustrateur de Bordeaux, puis Muriel Magellan de Paris, créatrice de pièces de théâtre, mais aussi de scénarios de cinéma et de télévision, dont Les Petits Meurtres d'Agatha Christie, et un film qui sortira prochainement à la page blanche, mais par ailleurs de romans, dont le dernier se situe à Beaupuis. Également Villerval du Périgord, écrivain de pièces de théâtre dont Les mots cailloux et de romans noirs comme Un papillon qui se brûle les ailes et Fou de rage. Charles Sage de Guérande en Bretagne nous présente son roman de cow-boy qui ne voulait pas mourir. Par ailleurs, il a passé une année en Corée du Nord dans le cadre d'une ONG et réalisé un livre sur sa vie en tant que Français en Corée du Nord. Également Anne Mailleux, présidente du tiers-lieu Quai 31 Marmande, nous présente ses structures et Florence Guiraud, illustratrice originaire de Beaupuis, qui était venue l'an dernier au Salon du Livre, nous présente des gravures qui sont exposées en ce moment au Quai 31 à Marmande. Enfin, Amélie Frazenbat nous présente la 13e édition de Festi-Grillade à Loubens, près de l'Aréole, qui aura lieu le week-end prochain, le 25 et 26 juin. Et côté jardin, l'histoire de la rose. Alors, je suis avec Sébastien Chevret, toujours au Festival du Livre à Beaupuis. Et il va se présenter, alors, je crois originaire de Bordeaux, je crois.
Alors bonjour, je m'appelle Sébastien Chevret, je suis donc illustrateur pour enfants principalement. J'illustre des albums, des livres scolaires, des jeux. Et effectivement, j'habite à Bordeaux, mais je ne suis pas de Bordeaux.
Voilà, bordelais de passage, je dirais. Alors, illustrateur, finalement, des bandes dessinées ou des livres pour enfants?
Alors, ouais, l'illustration, ce n'est pas de la bande dessinée. L'illustration, tout se raconte en une série de 12 à 14 doubles pages. Pour les petits albums, pour les maternelles, c'est souvent 8 pages. Donc, ce n'est pas la même façon de raconter entre l'illustration et la bande dessinée. Parce que, en bande dessinée, la narration est différente. Plus rythmé, par cases, à l'aide de cases, de phylactères, pour pouvoir expliquer le propos. Et on peut, séquencer les choses de manière différente que dans un album, où finalement on choisit dans la double page tout ce que... On sélectionne un ou plusieurs moments, mais on ne peut pas tout dire et tout raconter. Donc il faut...
Alors... On travaille toujours en binôme, c'est ça?
Ben en fait, quand on est illustrateur, on a forcément besoin d'une histoire, on a forcément besoin d'un texte. Alors soit, moi, des éditeurs me proposent des histoires dont je ne connais pas les auteurs ou les autrices. Et puis, depuis quelques années, je monte pas mal de projets avec des amis, auteurs, autrices. Donc, oui, en binôme, parce que l'illustration sans le texte, ça ne fonctionne pas. Enfin... Ça ne fonctionne pas de la même façon.
Alors ça veut dire que si je prends le premier que j'ai sous les yeux, carrément, ça s'adresse à quel type de public?
C'est maternel. C'est un livre tout carton, en 8 doubles pages. C'est vraiment pour tout petit.
Tout petit, c'est-à-dire que le but étant de faire prendre conscience quoi au juste?
Celui-ci, c'est un... Un jeu de mots et d'images autour des formes et de la construction d'un personnage qui est un oiseau, en fait. Donc on part de formes simples, le rectangle, le triangle, le rond, les lignes, les choses comme ça. Et ça va aider l'enfant à construire, voire même à pouvoir dessiner un personnage, donc un oiseau ici. Et en deçà, il y a en plus une histoire. Amusante, où le personnage se forme, ça commence par ceci est un point,
c'est marrant.
Ce genre de choses, non ça commence pas par ça mais peu importe, et ceci est un rond, voilà c'est ça le premier, et au fur et à mesure on construit, donc l'enfant peut même en plus prendre ça un peu comme une leçon de dessiner un oiseau.
Voilà. Alors ça c'est, donc là on est à un public maternel, mais on peut travailler avec... des publics beaucoup plus âgés.
Oui, bah moi je travaille pour tout ce qui est jeunesse et on va dire le corps de mon travail va s'adresser à des enfants entre de 2-3 ans jusqu'à 9-10 ans.
9-10 ans, avec des histoires plus ou moins liées à la nature.
Oh ben les thèmes sont variables, j'ai plein d'albums aux thèmes différents. Les petits mondes, par exemple, c'est une succession de personnages qui sont dans leur propre monde, que ce soit un enfant qui vit dans sa cabane, qui joue dans sa cabane installée dans le salon, ou un petit qui va jouer au milieu de ruines parce que son pays est en guerre. En gros, l'idée, c'est que rester dans son monde, c'est une chose, mais partager son monde, ça peut être une solution à l'ouverture, une solution à pas mal de choses. Et puis en fait, à chaque livre, c'est une histoire différente. En fait, hein. C'est très difficile de mettre ça dans des cases parce que justement, chaque livre est une case, on va dire.
Et alors, illustrateur, finalement, t'es venu comment?
Ah, moi, ce métier-là, à force de dessiner, moi, ce que j'aime dans l'illustration, ce qui m'a plu et ce qui m'a donné envie de faire ce métier, c'est que, comme je venais juste de le dire, chaque histoire est différente,
Oui.
chaque projet est nouveau, donc pas de routine. Et puis, moi, j'aime bien varier les goûts, en faisant de l'album, du scolaire, des jeux, en participant à des salons. Donc, tout ça permet d'avoir de pouvoir varier les plaisirs, varier les techniques, changer. C'est ce que j'aime dans ce métier-là.
Et là, pour ça, une formation, quoi, comme formation?
Moi, j'ai fait une faculté d'art plastique, mais ce n'est pas une faculté d'art plastique qui amène à devenir proprement dit illustrateur. Moi, j'ai plutôt appris en voyageant à dessiner principalement. J'ai été refusé dans des écoles d'illustration. Et voilà, comme quoi il n'y a pas que les écoles qui
Oui.
amènent à ça. Voilà, il y a plusieurs portes.
Finalement, c'est en allant voir ailleurs, en voyageant, en dessinant ce qu'on voit, que finalement on illustre.
Alors, illustrer, c'est raconter les mots des autres. C'est mettre en lumière les mots des autres. C'est pas parce qu'on ne fait, c'est très bien recopier un paysage ou faire un portrait ou ceci ou cela. Non, dans l'illustration d'albums, de livres, il faut savoir rythmer, raconter d'une page à l'autre, maîtriser le chemin de fer pour que chaque page, que le lecteur puisse à chaque fois avoir envie de tourner la page. Et ça, c'est pas juste de l'observation, c'est du travail de narration. Ouais. C'est différent.
Très bien, merci.
Merci.
Alors, je suis avec Muriel Magellan, toujours au Festival du Livre à Beaupuy. Alors, Muriel Magellan, je crois, originaire du côté de Montauban, mais parisienne par nécessité, je crois.
Exactement, parce que je suis partie à 17 ans de Montauban pour faire mon métier d'artiste. À l'époque, je ne savais pas exactement si je voulais être comédienne, si je voulais chanter, si je voulais écrire. Mais je suis partie à Paris faire une école de chanson, puis le Théâtre National de Chaillot. Et en sortant, je me suis mise à écrire d'abord du théâtre, puis des scénarios, et puis des romans. Voilà, maintenant j'en suis à mon 6e roman.
Alors, au départ du théâtre, création de pièces de théâtre.
Oui, voilà, j'ai une pièce qui s'appelle Trait d'Union qui a été jouée au Théâtre des Mathurins, montée par Bernard Murat. J'ai une pièce qui s'appelle L'éveil du chameau qui a été jouée au Théâtre de l'Atelier avec Pascal Elbé, Barbara Schulz. Donc ça, c'était une autre pièce qui s'appelle Pierre et Papillon qui a eu un prix à Avignon. Enfin voilà, c'était le début de mon... Enfin pas que le début, ça
Début du
continue.
festival d'Avignon.
Ça, non, j'étais avec Jean Villard, oui, vous ne me connaissez pas. Mais, voilà. Non, mais c'était le début de mon inspiration était théâtrale, mais continue de l'être d'ailleurs. Hein, j'aime toujours écrire du théâtre. Et après, je suis passée à l'écriture de scénario. J'ai écrit pour la télévision. Hein, une des choses que vous pouvez connaître, c'est Les Petits Meurtres d'Agatha Christie.
Ah oui,
Voilà.
d'accord.
J'ai créé la mini-série Les Petits Meurtres en famille qui a donné Les Petits Meurtres d'Agatha Christie, d'abord avec Duléry et Colucci, La Rosière et Lampion, sont des personnages que j'ai créés. Voilà, avec Kanji Aferi, on était deux auteurs. Puis après, j'ai écrit pour le cinéma. Donc Une famille allouée, par exemple, avec Benoît Pelvorde et Virginie Efira. J'ai écrit aussi Profession du père, adapté de Sorge Chalandon avec Benoît Pelvorde aussi. Et là, je viens de réaliser mon premier film de cinéma qui sortira le 31 août. Voilà.
Et le titre, ça sera quoi ?
Ça s'appelle La page blanche. C'est adapté de la bande dessinée de Pénélope Bagieux et de Boulet. Et c'est avec Sarah Giraudeau, Pierre de la Donchamp et Grégoire Ludig.
Nous avons un code du Marmandie qui s'appelle la page blanche, donc il va falloir peut-être la goûter, de Fabien Tarascon.
D'autant plus que mon roman Géante, pour lequel je suis là, parle de vin et de code du Marmandais. Voilà.
Ah, en plus, ouais, bon, mais très bien. Alors, pourquoi Beaupuis ? Comment c'est venu, l'inspiration ?
En fait, j'étais venue plusieurs fois à Marmande et à Marcellus, parce que j'ai un ami qui vit à Marcellus. Et je me baladais dans le coin souvent. Bon, quand j'ai cherché un lieu pour mon héroïne, je me suis dit, une petite ville comme Marmande, ce serait bien. Mais où est-ce qu'elle habite ? Et donc, j'ai fait le tour et je suis arrivée à Beaupuis. Et quand j'ai vu que Beaupuis surplombait la vallée, et comme il arrive quelque chose d'assez étrange à mon héroïne, parce qu'elle se met à grandir, je me suis dit, il va y avoir sans doute dans ce roman des moments de contemplation, et ça sera bien que de là où elle est, de là où elle habite, elle voit la vallée, voilà, la vallée du Lot.
La vallée de la Garonne.
La Garonne.
Alors, vallée de la Garonne qui de temps en temps déborde, mais bon, là, c'est plus le cas. Le scénario se fait à Beaupuis.
À Beaupuis et à Marmande et dans les environs. Il y a les vignobles du coin. En fait, je peux vous donner le point de départ. Laura donc travaille pour l'entreprise de peinture et rénovation de son mari. Elle fait la gestion, mais elle est aussi passionnée de littérature japonaise. Donc elle lit sans arrêt, dès qu'elle peut, des romans japonais. Et à l'occasion de la venue d'un écrivain japonais connu à la médiathèque de Marmande, elle se déplace. Et le spécialiste de littérature japonaise est bloqué dans le train. Donc la responsable de la médiathèque lui dit « Laura, je vous en supplie, aidez-nous à faire l'interview, l'entretien avec cet écrivain ». Elle le fait, et c'est une petite bonne femme discrète. Et là, elle s'aperçoit, et on s'aperçoit qu'elle connaît extrêmement bien l'œuvre de cet écrivain, qu'elle en parle très bien. Lui-même le souligne. Elle est très excitée de ce qui s'est passé, et le lendemain se passe un phénomène étrange. Elle ne rentre plus dans ses chaussures et elle grandit. Et c'est comment cette jeune femme se déploie et qu'est-ce que ça fait que de se déployer pour elle et pour son entourage. Elle a une passion qui est le vin, et notamment les vins de la région, et une viticultrice du coin va lui proposer de travailler pour eux grâce à sa culture japonaise. Voilà, je vous en dis pas plus, mais cette croissance va surprendre tout le monde.
Et on est en Côte du Marmandais.
Exactement, voilà, exactement.
Très bien, merci.
C'est moi qui vous remercie.
Comme nous avions la tête ailleurs et dans le vent, comme nous mettions du merveilleux le plus souvent,
comme nous avions quelques épis toujours en tête, comme de fanions qui se balancent sur la fête.
Ce ballon qui roule et roule et roule encore, et ce grand-père qui perd la boule, mauvais sort.
Et le goûter dans le jardin sous les tilleuls, frérot jamais, au grand jamais, tu ne seras seul.
Comme nous étions frères de ci, frères de ça,
et aujourd'hui, aujourd'hui, dans nos bras,
comme nous sommes fiers de ci, fiers de ça, et se regardent dans les yeux, tous les deux. Tous les deux. Comme nous étions guerriers, marins et cosmonautes, comme nous serions chanteurs, pompiers et rien d'autre,
comme on ne savait rien du temps qui rend amer, comme la mer n'était pas un mur, mais la mer.
Et cette musique qui tape et tape encore. Et ce coup franc que je frappe, tu la sors. Et cette grand-mère qui veille sur nous sous les tilleuls. Frérot, jamais, au grand jamais, tu ne seras seul. Comme nous étions frères de ci, frères de ça.
Et aujourd'hui, aujourd'hui, dans nos bras.
Comme nous sommes fiers de ci, fiers de ça. Et se regardent dans les yeux, tous les deux. Nous étions guerriers, marins et cosmonautes.
Comme nous serions chanteurs, pompiers, mais rien d'autre.
Comme nous avions quelques épis toujours en tête.
Mmh,
et se regarder dans les yeux, tous les deux.
Alors, je suis avec Widerval. Widerval, vous êtes originaire d'où, là ?
Alors, moi, je viens de Dordogne, où je me suis installé depuis une vingtaine d'années.
Un voisin, quoi.
Voilà, un voisin, absolument. Bon, avant, je venais du Pas-de-Calais, j'étais né dans le Pas-de-Calais. D'où le nom de Widerval, d'ailleurs, parce que c'est un nom d'auteur, mais qui est aussi le nom d'un petit village à côté d'Arras. Voilà.
Et alors, vous êtes venu chercher le soleil, quoi ?
Oui, c'est une histoire d'amour qui m'a fait descendre dans le sud-ouest. Donc, et puis aussi, je suis tombé amoureux, non pas seulement d'une femme, mais du Périgord. Effectivement, toutes ces pierres jaunes du Sarladais, ça m'a vraiment conquis et séduit.
Et alors là, vous écrivez plusieurs bouquins. Vous faites aussi vous êtes auteur de pièces de théâtre, c'est ça ?
Oui, j'ai commencé par écrire des pièces de théâtre, en fait, alors pour tous les âges, hein, que ce soit jeunesse ou pour tous. Et notamment une pièce qui a été montée, qui est bien distribuée, enfin, qui marche beaucoup auprès des enfants, des enseignants et même des parents, qui s'appelle Les mots cailloux. Les mots cailloux sont les mots qui font mal, hein, qu'on jette comme des cailloux. Et donc, dans la pièce, qui est très poétique, on apprend pour se soigner à utiliser des mots médecine, et puis pour que le monde soit plus vivable, on va dire, à utiliser des mots bijoux. Et voilà, il y a même le monde qui parle, c'est vraiment un univers très, très poétique et qui touche beaucoup et qui permet de faire évoluer la pratique de la violence verbale chez les enfants.
Capital.
Mais capital notamment, oui, dans les écoles, etc. Alors, bon, pour la petite histoire, j'ai été enseignant, donc c'est pas par hasard si j'ai écrit cette pièce, mais vraiment, elle fonctionne très, très bien. Et
oui, ça correspondait bien à une identité, là, quelque part.
Oui, ouais, complètement, tout à fait. Et puis après, avec le confinement, j'ai écrit un roman, je me suis lancé, j'avais plus de temps, donc voilà, comme beaucoup de monde. Et donc, un roman noir, qui s'appelle « Comme un papillon qui s'est brûlé les ailes », qui est sorti en juin de l'année dernière. Et c'est un roman noir, mais plutôt psychologique, en sens où il n'y a pas de l'hémoglobine toutes les quatre pages. Voilà, l'intérêt, c'est plutôt d'entrer dans la tête de tous les personnages et de voir comment ils vivent, comment ils pensent, comment ils réagissent. Et alors, le suspense, par contre, est posé dès le départ, dans le sens où deux gendarmes débarquent chez un monsieur pour lui annoncer que sa femme vient de se tuer dans un accident de voiture. Ce sont les seuls décès du livre. Et à partir de là, en fait, le suspense, c'est de savoir si c'est vraiment un accident de voiture.
Ah.
Et on ne le sait qu'à la toute dernière page. Donc surtout ne pas feuilleter.
Il faut attendre la dernière. C'est comme beaucoup d'énigmes où il faut attendre tout à fait à la fin, le dénouement.
Alors ça, c'est effectivement, un bon polar doit délivrer sa réponse à la fin. Mais moi, souvent, il y a quand même les dernières pages qui sont la conclusion qui est un peu étirée. Tandis que là, vraiment, la solution ne tombe qu'à la toute dernière. Donc,
Pas lire la dernière page.
Surtout pas lire la dernière page. Alors je me dis que je devrais déchirer la dernière page et l'envoyer qu'à la fin.
Très bien, bon, mais quelque chose qui finalement, le Covid vous a apporté quelque chose d'intéressant puisque vous êtes mis à, à écrire comme un papillon qui se brûle les ailes.
Eh bien, tout à fait. Et alors, pour la petite histoire, alors, c'est une histoire même qui va se poursuivre, parce que j'ai la chance que des lecteurs vraiment m'ont interpellé pour me dire « Mais vous ne pouvez pas nous laisser avec les personnages comme ça, on s'attache trop à ces personnages, il faut qu'ils puissent revivre d'autres aventures. » Et donc, j'ai obéi et un second livre va sortir prochainement. Je n'ai pas encore la date précise, mais à l'automne ou plus tard.
Et là, c'est quoi ?
Eh bien, c'est aussi un polar, enfin, un roman noir. C'est pas vraiment une suite, mais ça reprend les mêmes personnages.
D'accord.
Voilà.
Et le titre, ça sera quoi ?
Ce sera Fou de rage.
Fou de rage. Fou de rage de Widerwall.
Tout à fait.
Très bien. Merci.
Merci à vous.
Alors, je suis toujours au Festival du Livre à Beaupuy. Et je suis avec Charles Le Sage. Qui m'a présenté, il arrive avec plusieurs bouquins, mais deux, je crois, principalement. Alors, il vient se présenter.
Bonjour, donc Charles Lesage, j'ai écrit Ezekiel Princeton, le cow-boy qui ne voulait pas mourir. C'est un western.
Vous êtes d'où, juste là ?
De Guérande.
Ah, au milieu des marais salants, là-bas.
Oui, c'est ça. C'est l'autre Far West. Donc, l'idée, c'était de raconter cette épopée là, d'un jeune Hollandais qui débarque aux États-Unis, un migrant de l'époque, et qui va traverser les États-Unis avec Ezekiel Princeton, donc, qui est un bandit, un vrai. On va les suivre tout au long de leur épopée. Ils vont croiser la voie de chemin de fer, ils vont traverser les montagnes, et ils vont croiser aussi la route d'un Indien, Wapasha, qui est donc, lui, représente un peu le peuple indien dans les États-Unis, dans l'histoire des États-Unis.
Alors, pour écrire ça, vous avez dû vous documenter
Oui, je me suis documenté, mais déjà aussi, enfin, moi, ça fait partie un peu de mon ADN, les westerns. J'ai été nourri à la sauce Sergio Leone et Ennio Morricone, donc tous les westerns spaghetti. Et donc, après, oui, ça demande un peu de documentation. Moi, je voulais surtout qu'on soit juste avant la construction du chemin de fer, pour que je trouvais ça intéressant, cette rentrée en fait de l'ère moderne par le chemin de fer, et de suivre ça, d'être juste avant ça, et de voir comment les personnages en gros vivent un peu cette modernité qui avance vers l'ouest, quoi. Et c'est pour ça que j'ai choisi cette époque là parce qu'elle était vraiment c'est vraiment le Far West, et
c'est vraiment la conquête de l'ouest,
voilà, c'est ça, ouais, c'est ça. Et moi, j'avais envie aussi de ces moments de chevauchée, en fait, où il y a les deux personnages qui traversent le pays à cheval, qui ont tous ces moments aussi de très longues chevauchées, et pendant lesquelles ils dialoguent. Et là, ça permet de parler de plein de choses, de la vie, de la mort, de l'âme, ce qui fait finalement notre essence, quoi. Et
donc Le cow-boy qui ne voulait pas mourir, de Charles Le Sage, avec une photo caractéristique.
Ouais, une très belle couverture, enfin, moi je trouve, en tout cas, une photo d'époque, hein, donc deux types là qui sont là un peu anonymes, et dans leur regard on lit à la fois, je trouve, la fièvre des pionniers et déjà un peu d'abattement, et je pense que c'est un peu ça que dit la photo, quoi.
Alors, je crois que vous avez amené un autre livre, je crois, c'est ça?
Ouais, j'ai écrit deux autres bouquins, en fait, sous un pseudonyme, Abel Meyers, parce que à l'époque j'ai vécu un an en Corée du Nord, et du coup d'où le pseudonyme, parce que il fallait.
En Corée du Nord.
Oui, oui. J'ai...
Vous avez plus qu'à m'arriver là-bas.
Ouais, j'ai bossé pour une ONG là-bas, et puis du coup. Comme après que je sois arrivé, au bout de 3 semaines, Kim Jong-il décédait. Du coup, on a pu assister à ses funérailles et tout ça. Et c'est le nombre de fois on s'est dit, il faudrait écrire un bouquin là-dessus. Du coup, c'est ce qu'on a fait avec mon épouse à ce moment-là. Et voilà, ça raconte notre quotidien pendant un an là-bas en Corée du Nord, à la fois moi sur le, dans le travail et ma femme sur le côté plus familial et tout ça. Et ça dépeint le quotidien, alors pas celui des Coréens du Nord, mais celui de Français en Corée du Nord, quoi. Ouais. Et celui-là, Place des Commémorations, qui est paru 3 ans après, c'est une fiction. Là, c'est plus un thriller, en fait, où il y a 6 personnages qui se retrouvent autour de la Place des Commémorations et autour d'un événement qui va les réunir. Où là, moi, j'ai essayé de me mettre un peu plus dans la tête des Coréens, quoi.
Comment vous avez vécu cette période-là ?
À la fois avec un énorme intérêt et beaucoup de... Je sais pas. En fait, on était sous pression, mais le danger n'était pas pour nous. Il était pour les Coréens avec qui on était, en fait. Et donc on était tout le temps en train de faire attention, un peu s'auto-censurer aussi de ce qu'on pouvait faire ou dire là-bas. Parce que finalement, on mettait en danger les gens sur place, quoi. Et c'est ça qui était le plus compliqué. Et en même temps, bizarrement, on a passé vraiment des moments où on s'est marré comme des bossus. Parce qu'en fait, c'est une sorte de théâtre énorme à ciel ouvert, quoi. Et donc, c'est vraiment un drôle de mélange, quoi.
Très bien. Merci.
Je vous en prie.
Avant qu'on s'abîme, on était bons amis. C'est pas où qu'on signe, c'est pas où qu'on fuit. Trop de mots d'amour imbéciles, tellement de signaux indécis. Moi j'ai pas grandi, c'est pas où qu'on vit. Et de l'amour à la haine, tu sais, il n'y a qu'un pas. Je t'ai dit des choses pas belles, tu sais, je le pensais pas. J'aurais dû crier, désolé, mais je t'ai laissé faire tes valises. Tu ne t'es pas retourné. J'aurais dû crier, je suis désolée. J'aurais dû arracher ta chemise, pas te laisser tomber. Avant les combats, avant qu'on s'égare, je jurais que par toi, je t'aimais sans crier gare. M'empoisonne à la colère. La douleur je la prends, je la serre. J'ai perdu l'or et la joie. Fallait pas mettre hors de moi. Et de l'amour à la haine, tu sais, il n'y a qu'un pas. Je t'ai dit des choses pas belles, tu sais, je le pensais pas. J'aurais dû crier, désolé, mais je t'ai laissé faire tes valises. Tu ne t'es pas retourné. J'aurais dû crier, je suis désolée. J'aurais dû arracher ta chemise, pas te laisser tomber. Je suis désolée. J'aurais dû crier. Je t'ai laissé faire tes valises. Tu ne t'es pas retourné. J'aurais dû crier. Je suis désolée. J'aurais dû arracher ta chemise, de te laisser tomber.
Alors je suis avec la présidente de l'association K31. Alors c'est quoi K31?
Alors K31, c'est un tiers-lieu. Un tiers-lieu, c'est un endroit assez exceptionnel, puisque c'est un endroit où tous peuvent se retrouver. C'est-à-dire que, par exemple, quelqu'un veut monter une société, se dit « je voudrais faire un essai avant de me lancer », eh bien, cette personne vient louer pendant X temps un bureau au sein de ce lieu. C'est un lieu qu'on a voulu extrêmement aussi convivial. C'est un lieu où des personnes qui n'osent pas, notamment en matière culturelle, pousser les portes d'un musée ou pousser les portes d'une galerie d'art, arrivent ici et découvrent pour la première fois les expositions que nous faisons ou les lectures que nous donnons.
Donc c'est multiculturel, quoi.
C'est multiculturel et en même temps, nous avons des grosses entreprises qui elles-mêmes ne disposent pas de locaux parfois suffisants, notamment de grandes salles, et qui viennent ici non seulement s'installer, faire des réunions, mais donc de ce fait découvrir ce lieu et revenir.
Ça veut dire que là, on a plusieurs salles, finalement.
Oui, on a en tout 1400 mètres carrés.
Ah, c'est quand même énorme.
Oui, parce qu'en fait, nous avons l'endroit où on se trouve actuellement, qui est plus particulièrement réservé à la culture, et en face, un autre endroit qui est réservé avec des bureaux plus ou moins grands pour justement toutes ces personnes qui veulent louer. Et il y a des personnes déjà qui louent depuis une année ou deux années.
Alors, Anne-Mailleux, il y a combien de temps que ça existe, ça ?
Alors, ça existe depuis... On a d'abord eu des premiers bureaux qui étaient rue en face de la gare. Et c'est pour ça que ça s'appelle Quai 31, puisque c'était en face de la gare et que ça portait le numéro de la rue. Ça fait maintenant 3-4 ans que ça existe.
Il y a un restaurant maintenant à la place.
Absolument.
Très bien, d'ailleurs.
Absolument.
Donc oui, ok, Quai 31, donc c'est du coworking,
c'est du coworking, c'est des animations, ce sont des découvertes, ce sont des organisations de salons, par exemple des salons des créateurs, ici il y a un certain nombre de créateurs qui viennent et qui après exposent et qui vendent leurs œuvres. Il y a aussi, en été, au printemps, énormément de concerts à l'extérieur, pour que tous peuvent se retrouver au centre-ville. Parce que notre but aussi, c'est de donner un petit peu un souffle au centre-ville, puisque nous y sommes, et qu'en été, tout le monde est content de monter cet escalier et de se retrouver dans cet endroit délicieux qui est notre jardin.
Alors, c'était quoi avant ?
Alors, avant, ici, il y avait la SAD et la Sécurité sociale.
Qui ont déménagé. Et donc
qui ont déménagé, et donc nous avons loué ces locaux aux propriétaires.
D'accord. Donc, finalement, c'est une super... C'est une super idée de s'installer ici, puisque c'est beaucoup plus grand que là où vous
Absolument. Absolument. Et c'est très important d'être dans le centre-ville, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas véhiculés notamment, et qui peuvent venir de la gare à pied, bien évidemment, et qui peuvent aussi venir circuler, se garer facilement, parce que bien sûr, nous avons un parking, donc ils peuvent se garer facilement, et c'est vrai que celui a beaucoup, beaucoup de succès.
Très bien. Bon, alors donc, il y a des expositions.
Il y a des expositions tous les mois.
Tous les mois.
Tous les mois, il y a une exposition avec un vernissage. Et là, par exemple, nous avons le privilège d'avoir des exposants jusqu'à fin décembre.
Ah oui, donc toute l'année, quoi.
Oui. Et petit à petit, c'est vrai que les peintres, les sculpteurs ont découvert ce lieu et tous ont eu un coup de foudre. Parce que, comme vous avez pu le remarquer, il y a une grande surface d'exposition. Et qu'il y a une vraie lumière ou extérieure de plein jour qui est très bonne pour les tableaux, ou une espèce de lumière tamisée, justement, pour la nuit.
Alors, ça veut dire que là, donc, une salle d'exposition remarquable, mais aussi les associations peuvent venir... organiser des réunions ici, c'est ça ?
Absolument. C'est-à-dire que s'ils ont besoin d'une salle, ils nous rencontrent et on leur dit les disponibilités et ils peuvent venir ici faire leurs assemblées générales, faire leurs réunions de bureau ou tout simplement le plaisir de se rencontrer et de communiquer.
Un lieu d'échange.
Un lieu d'échange. Également, nous accueillons des étudiants, par exemple, qui parfois errent dans la ville sans savoir trop où se poser et qui viennent ici travailler quelques heures.
Donc, c'est extrêmement important.
Très, très. Pour moi, c'est important parce que c'est vraiment un vrai lieu de rencontre.
Très bien. Merci, Anne.
Avec plaisir.
Je sais que Florence Guiraud, qui était au Salon du Livre l'année dernière et qui expose Quai 31. Alors là, c'est quoi, au juste ?
Ce sont des gravures. Ce sont 65 gravures. Pratiquement, deux techniques sont présentées ici. Des aquatintes. Et du carborandum. Ce sont deux techniques assez différentes, mais en tous les cas, elles font toutes les deux partie du grand monde de l'estampe, de la grande famille des estampes. Et voilà, donc tout un univers qui se retrouve ici, que je vous propose de découvrir.
Alors cet univers, tu connais, puisque tu y es déjà depuis très longtemps.
Oui, parce que malgré tout, ça reste dans un domaine assez faune-flore que j'ai toujours apprécié, que j'ai toujours dessiné, que je connais quand même un petit peu. Et bon, se rajoutent des personnages et puis plein de petites choses à droite, à gauche. J'aime bien les images qui racontent des histoires. Et je pense que là aussi, c'est ce qui se passe.
Alors là, ici, on est à Marmande aujourd'hui, mais demain, on part à Vic-Fezensac pour une autre exposition.
Ah non, vu que c'était ce week-end, c'était pour la feria, durant le week-end de la Pentecôte, les organisateurs font un circuit des arts. Et à cette occasion, dans toutes les bodegas, il y a certaines exposent des artistes. Et effectivement, là, j'ai exposé. Alors ça, c'était hier. Aujourd'hui, Marmande. Et demain, ça sera à Paris pour la fête de l'estampe qui a lieu sur la place Saint-Sulpice pendant 2 journées. Et c'est la réunion de beaucoup de graveurs, au point de vue national et même international. Et c'est une très belle manifestation. Voilà, donc tout se trouve en même temps.
Tu travailles pour faire ce type de tableau, tu travailles avec quoi au juste?
Alors au départ, c'est une plaque de zinc ou de cuivre qui est travaillée, qui est vernie, et dans laquelle, avec une pointe, on crée un sillon. Le dessin donc se fait grâce à cette pointe. Quand le dessin est terminé, on met la plaque dans un acide. Suivant que c'est du zinc ou du cuivre, l'acide diffère. Donc l'acide va mordre dans le creux et va attaquer le métal. Après, on enlève le vernis. On a donc sur la plaque, on voit le creux qui va être ancré. On va faire l'essuyage pour que ne reste que l'encre à l'intérieur du sillon. Et là, on va la mettre sur la presse. On va déposer un papier humide et la presse va rouler sur le papier et la plaque et va impressionner le dessin.
C'est un travail de...
C'est long, c'est très long. Mais il y a plein de possibilités. Bon, ça, c'est le plus basique, mais on peut faire on peut mettre aussi des gris dans les gravures. Alors là, ce sont des aquatintes. On peut aussi donner d'autres rendus, plus crayons, plus... Ben, c'est vraiment très riche comme possibilité. Ici, je présente des aquatintes et des eaux fortes.
Et des quoi, des ?
Des eaux fortes. L'eau forte, c'est ce que je viens d'expliquer. Et également, ce qui est un peu les gravures qui ont un traité un peu plus grossier, un peu moins fin, ça s'appelle, c'est du carborandum. Et là, au lieu d'avoir fait un sillon dans le métal, j'ai créé une pâte. Alors ça s'appelle le carborandum. C'est fait avec du colle à bois, acrylique et carborandum, qui est une poudre. Donc un tiers, un tiers, un tiers, on mélange tout ça et ça fait comme une espèce de pâte de dentifrice. Et avec un pinceau, avec un peu ce qu'on veut, on fait le dessin sur une plaque qui va se coller et sécher et durcir. Il faut le laisser à peu près une nuit. Et ensuite, on refait la même chose, c'est-à-dire on encre, on met le papier humide et on fait passer la presse. Mais le résultat n'est pas tout à fait le même. Et on peut même faire des mixtes, faire les deux, mettre de la couleur. Enfin, voilà, il y a plein de possibilités.
Tout un travail d'art, là.
Ouais.
C'est une passion, hein.
Ben oui, il faut pas... Oui, je crois. Et c'est vrai que quand je suis dans mon atelier, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il fasse du soleil, ça m'est égal. Je suis bien.
Très bien, merci Florence.
Merci Patrick.
Ils parlent tous comme des animaux, de toutes les chattes, ça parle mal. 2018, je sais pas ce qu'il te faut, mais je suis plus qu'un animal. J'ai vu que le rap est à la mode et qu'il mange mieux quand il est sale. Bah faudrait peut-être casser les codes, une fille qui l'ouvre, ce serait normal. Balance ton quoi. Même si tu parles mal des filles, je sais qu'au fond t'as compris. Balance ton quoi, un jour peut-être ça changera. Balance ton quoi. Donc laisse-moi te chanter. Parler de faire en moi je passerai pas à la radio. Parce que mes mots sont pas très beaux. Belle, t'es pas si bête. Pour une fille drôle, t'es pas si laide. Tes parents et ton frère, ça aide. Oh, tu parles de moi. C'est quoi ton problème? J'ai écrit rien que pour toi le plus beau des poèmes. Laisse-moi te chanter. Parler, te faire en oui, je serai poli pour la télé. Balance ton quoi. peut-être ça changera. Y a plus de respect dans la rue, tu sais très bien quand t'abuses. Balance ton quoi. Balance ton quoi. Laisse-moi te.
Alors, je suis avec Amélie Fazenbat de la ferme du Moulina, qui, comme chaque année, organise Festigriade. Alors, Festigriade, c'est pas la première année, là.
Non, c'est la 13e édition.
Alors, 13e édition. Alors, cette édition, c'est chaque année, c'est fin juin, donc au début de l'été. Et donc, la 13e édition, ça va avoir lieu, je crois, le week-end prochain, c'est ça?
Oui, tout à fait. Donc, samedi 25 et dimanche 26 juin.
Alors, donc, samedi 25, ça commence à quelle heure?
Alors, le samedi, c'est en nocturne, de 17h à minuit, et le dimanche, c'est de 11h à 17h.
Alors, pour resituer, la ferme du Moulina se situe où, juste?
Alors, la ferme du Moulina, c'est à Loubain, centre L'Aréole et Sauveterre de Guyenne, près de Montségur, facile d'accès. Voilà, il y a un grand parking ombragé, il y a de quoi faire sur place.
Alors, particularité, c'est que on est cette ferme du Moulina, on a d'abord des bâtiments qui sont quand même assez historiques et extrêmement importants.
Oui, alors du coup, sur place, on peut retrouver un séchoir en pierre, un grand bâtiment en pierre, et donc qui est maintenant transformé en salle de réception. Nous pourrons donc vous accueillir en cas d'orage. Donc voilà, on a la salle de réception plus un grand hangar pour pouvoir être abrité.
Alors ça veut dire que là, durant ces deux jours, on a bon bien sûr différentes animations. La plupart se fait en plein air. Mais vous avez cette salle qui peut servir aussi, si comme on dit, s'il pleut, s'il y a un problème, etc.
Voilà, tout à fait, parce qu'avec les chaleurs que nous avons, l'orage est prêt. Oui, donc du coup, il y a le marché gastronomique qui est, lui, en plein air. Donc, il y a des artisans aussi. Après, il y a des concerts.
Oui, alors, des artisans, qu'est-ce qu'on va trouver comme produit, comme artisanal?
Alors, donc, du coup, producteur, on peut retrouver donc les huîtres chevaliers, donc du bassin d'Arcachon.
Oui.
Les délices de Claude, qui est artisan chocolatier, glacier, pâtissier. Le vignoble Malmanche. Ensuite, il y aura le château La Peyre, château Le Pi avec le fromage de vache et des serres lactées. Ensuite, les biquettes de Madine, donc une nouvelle chez nous pour les festigriades.
C'est quoi,
donc, juste? Du fromage de chèvre.
Un fromage de chèvre. Ouais.
Ensuite, après, en artisanat, donc j'ai A2I 3D qui fait du 3D design sur bois.
Oui.
Erika Spirit qui fait donc du miel et du gin et de la vodka.
Du gin, alors le gin et la vodka, c'est régional, c'est une production locale.
Oui, alors Paul Thirion est de Dordogne, donc de Bergerac, et donc du coup il produit son miel, il a des ruches sur la ferme.
Ah d'accord.
Voilà, et donc du coup il en fait un bon gin.
D'accord.
Ensuite, après, on retrouvera donc Atelier Grandet, qui est une coutelière, donc Léa Chattard, qui fait des couteaux, qui est tout près de Blasimont, oui. Et qui fait des manches de couteaux avec des essences locales.
Oui.
Et après, j'ai un gâteau à la broche, donc ils viennent faire une démonstration, comment on fait le gâteau à la broche, et voilà, dégustation et vente sur place.
C'est qu'on trouve à la fois dans les Pyrénées, sur Arreau ou en Aveyron. Hein, tout à fait, c'est les deux spécialités locales.
Les gourmands connaissent.
Voilà, tout à fait. Alors après, bien sûr, on va trouver les produits de la ferme du Moulina. Parce que...
Oui, bien sûr. Donc on aura un stand sur place avec des conserves de canard gras, notre huile. Donc on fait de l'huile de colza et de l'huile de tournesol, la lentille. Et ensuite du cochon bio gascon.
Voilà.
Donc on le retrouvera sur le stand, mais aussi dans l'assiette.
Et alors donc les menus, c'est quoi juste? Qu'est-ce qu'on va trouver comme type de menu?
Alors du coup, le samedi soir, on peut manger sur place, et oui. Le dimanche aussi. Donc il y a plusieurs menus allant de 27,50 euros à 13,50 euros. Mmh. Ils sont assez variés. Hein. Donc il y en a à 27,50, le gastronomique, ensuite le fermier à 24,50 euros, le menu petite fée à 13,50 euros, et il y a un menu pour les végétariens et pour les enfants aussi.
D'accord.
On retrouvera du coup des produits, donc des producteurs qui seront sur place, Donc, en entrée, ce sera des huîtres ou des pâtés de la ferme.
Oui.
Suivant le menu, le plat diffère. Donc, du coup, vous avez tondu de canard au foie gras ou échine de porc, les cuisses de canard, les côtes de porc, la saucisse de porc. Enfin, voilà. Et plein de bonnes choses. Mmh. Ensuite, en fromage, donc, il y a le fromage de chèvre ou de vache. Mmh. Et en dessert, donc, les délices de Claude avec ses glaces artisanales. Ensuite, après, crêpes ou pâtisserie. Le château Le Pin qui propose donc glaces et desserts lactés. Et l'association, donc, Festigriade qui propose donc la salade de fruits de saison.
D'accord, salade de fruits de saison. Alors, à côté de ça, on va trouver des animations, c'est ça?
Oui. Alors, du coup, en animation, donc, il y a les concerts. Donc, il y a donc trois concerts dans le week-end. Donc, le samedi, il y a en première partie, il y a le duo Calliope, qui est plutôt dans un registre variété française, soul, pop.
Oui.
En seconde partie, on partira sur du rock pour pouvoir danser un peu. Et donc, c'est les Rifkers.
Oui.
Et le dimanche, donc, ce sera animé par la banda Barsac Los Gojos.
D'accord. Alors, donc, les repas, c'est à quelle heure? À quelle heure qu'on peut venir manger, là?
Alors, le samedi, ben, on peut se donner rendez-vous à partir de 19h, 19h30 pour manger sur place.
D'accord.
Et ensuite, le dimanche, ben, à partir de midi, midi et demi.
D'accord. Alors, à côté de ça, il y a d'autres animations qui sont prévues sur la ferme, oui, du Moulina.
Ensuite, donc, du coup, il y a le tir à la corde, le fameux tir à la corde qu'on attend tous lors des festivités.
Ouais.
Ensuite, après, on a une exposition, donc on expose donc des tracteurs de la ferme avec tout un côté pédagogique.
Oui.
Et ensuite, après, il y a une grande tombola. Donc, l'association propose une grande tombola avec des jolis lots à gagner, dont une balade en bateau autour du Fort Boyard.
Ah, oui, sympa.
Ensuite, après, on est en partenariat avec Salvéo, donc, qui offre un bon de 1 heure de privatisation du spa.
D'accord.
Et ensuite, un autre bon de 6 mois d'abonnement.
D'accord.
Donc, c'est quand même des beaux lots. Et la ferme, bien sûr, offre donc du coup un panier d'une valeur de 100 euros de produits de la ferme.
Alors, l'abonnement 6 mois, c'est sur quoi, au juste?
C'est 6 mois d'abonnement sur la forme et la détente, donc du coup, à choisir.
Ah, d'accord,
donc,
ok.
Si c'est pour aller courir ou si c'est pour aller se détendre.
D'accord. Et c'est offert par qui, là?
C'est offert par Salvéo.
Par Salvéo. Qui se trouve où, juste?
Qui se trouve juste au-dessus de la ferme à Loubain.
Ah, d'accord, c'est à Loubain.
Se détendre après avoir bien mangé à la ferme. Voilà, il faut aller se dépenser chez le voisin.
Voilà, tout à fait. Donc, on va répéter, ça commence à quelle heure, samedi?
Donc, samedi, en nocturne, de 17h à minuit, et dimanche, de 11h à 17h. À noter, on me demande souvent pour les réservations.
Oui.
Donc, il suffit de réserver quand vous êtes plus de 7 personnes.
D'accord. Donc, plus de 7 personnes, ouais, on est obligé de réserver. Il faut téléphoner à qui, là?
C'est préférable de réserver pour avoir une table, une grande tablée commune. Oui. Donc, il suffit de m'appeler au 06 76 89 06 54.
Voilà, et donc on réserve pour avoir une grande table pour soit le samedi soir, soit pour le dimanche midi.
Tout à fait.
Voilà. Bon, ben, je pense qu'on aura du beau temps.
Oui, oui, oui. Et puis, si on a quelques gouttes, ça peut faire que du bien.
Voilà. Bon, quoique là, on a eu un petit orage, ça nous a rafraîchi un peu.
Voilà, ça fait du bien, on respire.
Très bien. Merci, Amélie.
À très vite.
Et voici Côté Jardin avec Patrick.
On est bien peu de choses, et mon ami la rose me l'a dit. l'aurore je suis née, baptisée de rosée, je me suis épanouie, heureuse et amoureuse, au rayon du soleil, me suis fermée la nuit, me suis réveillée vieille. Pourtant j'étais très belle.
Vous avez compris, aujourd'hui nous allons parler de la rose. On a évoqué la rose à travers ses aspects botaniques, sa sélection, son évolution et ses légendes. Elle a traversé l'histoire et a semé tout au long des siècles des personnages aussi célèbres que Cléopâtre, la guerre des deux roses, Joséphine de Beauharnais. En 1858, grâce au pasteur Hall, un passionné de roses, la première exposition nationale des roses en Angleterre voit le jour. Jean-Baptiste Guillot, en 1867, crée la première hybride de thé. La Société française des roses est fondée à Lyon, considérée comme la capitale des roses. Le XXe siècle voit la gloire des rosiers buissons à grandes fleurs, avec les créations de Georges Delbar, de Meillant, de Greville Puck, puis de David Austin, en croisant les différentes variétés de roses, qui est donné des roses anciennes jusqu'à roses nouvelles, modernes. Dans la mythologie, chez les Grecs, la rose était la fleur d'Aphrodite, déesse de l'amour et d'Aurora, la déesse aux doigts de rose. Chez les Romains, ils rattachent la rose à Vénus. La rose aurait été blanche, mais rougie accidentellement quand Cupidon renversa son verre de vin sur elle. Il paraît que la première nuit d'amour entre Cléopâtre et Marc-Antoine se serait déroulée sur un lit de pétales de rose de 45 cm d'épaisseur. Dans le Cantique des Cantiques, la rose symbolique Israël, et dans le livre de Psardis, la rose naît sans épines et n'en est qu'une armée après l'apparition du génie du mal sur terre. Vers l'an 400, la rose devient l'emblème de la Vierge qui est à l'origine de la dévotion catholique du rosaire. Quand en 1187, Saladin reprend Jérusalem aux croisés, il fait purifier la mosquée d'Omar par de l'eau de rose amenée dans une caravane de 500 chameaux. La guerre des deux roses entre 1453 et 1485 opposa la rose blanche de la maison York et la rose rouge de la maison de Lancaster, d'où, après la naissance d'Henri VII, Tudor et Elizabeth York, l'emblème de la rose Tudor rouge à cœur blanc et plus tard la création du rosé York, Lancaster, la rose est aujourd'hui la fleur symbolique d'Angleterre. Mais la rose est aussi l'emblème de... Les rosières sont aussi le signe des jeunes filles vertueuses et pures, était à l'origine couronnée de roses. À travers les Rose-Croix, qui est une société secrète mystique, ayant pour emblème une rose rouge fixée au sein d'une croix. De même que la Rose Blanche de Finlande, qui est un ordre national finlandais créé en 1919 pour récompenser les services rendus au pays. Plus récemment, la Rose Rouge, associée à François Mitterrand au Parti Socialiste, ce symbole également adopté par d'autres partis politiques européens, comme le Parti travailliste au Royaume-Uni, en Espagne et dans les pays nordiques. En novembre 2003, la rose est le symbole du mouvement non-violent de la Révolution des roses en Géorgie. Mais la rose est le langage des fleurs. La rose rouge est la fleur des amoureux. En plus de sa couleur, la quantité exprime une symbolique. Le bouquet de roses peut porter un message particulier. Une rose permet de dévoiler son amour en toute simplicité. Deux roses permettent de se faire pardonner. 12 roses permettent de remercier sa bien-aimée, une demande de mariage. 24 roses pour être galant. 36 roses pour déclarer son amour, un bouquet de fiançailles. Et 101 roses peuvent s'offrir pour exprimer la passion, l'amour sans retenue. Mais la rose est aussi un emblème national. La rose est l'emblème national de plusieurs pays. L'Angleterre à travers la rose Tudor, également la Bulgarie, les États-Unis, la Finlande,
l'Irak, la Roumanie. La rance est aussi choisie comme emblème officiel de plusieurs États des États-Unis, comme la Géorgie, l'Iowa, New York, le Dakota du Nord et l'Oklahoma. La rance est également utilisée dans des expressions et locutions françaises comme « être frais comme une rose », c'est-à-dire avoir un joli teint, l'air opposé. « Ne pas sentir la rose », ça veut dire sentir mauvais. « Se faire envoyer sur les roses », se faire y conduire. « Découvrir le pot aux roses », c'est-à-dire découvrir la vérité. Cette plante la plus cultivée au monde a inspiré les écrivains. À travers le roman de la Rose, l'un des œuvres les plus célèbres du Moyen-Âge, écrit par Guillaume de Lorris en 1236, puis Jean de Meuc en 1275, ce poème allégorique, dans lequel la Rose, objet de la quête et le symbole de la perfection, décrit la tentative d'un amoureux, le poète, pour s'emparer de l'être aimé, représenté par une rose. À la même époque, Dante écrit la Divine Comédie qui se conclut par une vision de rose blanche mystique. Au XVIe siècle, Pierre de Ronsard, à travers la poésie, utilise la symbolique de la rose pour évoquer la fragilité de la vie. Mignonne, allons voir là si la rose. Deux vers célèbres de François Malherbe dans l'Estance, consolation à Monsieur Duperrier sur la mort de sa fille. Associe la rose à la beauté éphémère. La rose, elle a vécu ce que vivent les roses, l'espace d'un matin. Mais les contes utilisaient la rose comme dans La Belle au bois dormant de Charles Perrault, repris plus tard par Jacob de William Grimm, où Églantine est protégée par un mur d'églantier. La petite rose de Goethe est l'un des plus célèbres poèmes mis en musique par Schubert, qui met en image la jeunesse, la souffrance de l'amour.
Bien peu de choses, et mon ami la rose me l'a dit ce matin. À l'aurore je suis née, baptisée de rosée, je me suis épanouie, heureuse et amoureuse, au rayon du soleil, me suis fermée la nuit, me suis réveillée. J'étais très belle, oui, j'étais la plus belle des fleurs de ton jardin.
C'était Côté Jardin avec Patrick. Voilà, l'émission Parlons Terroir s'achève. Nous étions encore au Salon du Livre de Beaupuis, le mois dernier, avec Sébastien Chevret, Muriel Magellan, Villerval, Charles Sage, et également Anne Mailleux du Quai 31 et Florence Guiraud, présente les gravures qui sont exposées. Et Amélie Franzenbat nous présente la 13e édition Festigriade et Côté Jardin, l'histoire de la rose. Je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye.